واسعة. الحديث الثاني بالعنوان أصول الدين ومراتبه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأحمد ركبتيه إلى ركبتيه وبعثتي على صحبيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: تجد الأمر. فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الفخاة العراة الحالة رئاء الشاة يتتولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد أيها الأحبة، هذا الحديث الثاني من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. والإمام النووي عليه رحمة الله اختار جوامع الأحاديث النبوية، وهذا الحديث حديث جبريل الطويل يسميه العلماء أم السنة. هذا الحديث يسمى أم السنة، كما أن للقرآن أم الكتاب، وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أم الكتاب، وحديث جبريل أم السنة.
Ce récit, cher bien-aimé, qui est donc le deuxième récit de cette épître de l'imam An-Nawawi, qui est parmi les récits que l'imam a choisi, qui est aussi, n'est-ce pas, le long Jibril, le long hadith, le long récit de Jibril, comme on a l'habitude de l'appeler. Il faut préciser que l'imam a choisi les meilleurs hadiths, les récits de choix pour constituer son épître. Ce récit a été appelé par les érudits, l'emblème ou la mère de la sunna, tout comme le Coran a son emblème. La Sourate Al-Fatiha, on appelle Umm Al-Kitab, la mère du livre ou l'emblème du livre. Les érudits ont aussi, pour la circonstance, choisi comme l'emblème ou la mère de la sunna ce récit prophétique.
وسمي هذا الحديث بذلك لأنه تحدث عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن المغيبات.
Il en est ainsi, c'est-à-dire son nom, la portée de son nom, parce que c'est ici à côté de la soumission, l'islam, la foi, l'excellence dans l'adoration, et aussi quelque chose qui concerne l'invisible, le caché.
والمغيبات ما يتعلق بالله والملائكة ويوم القيامة.
Les choses cachées qui se rattachent à Allah, par exemple, en ces anges et en le jour dernier, le jour de la résurrection.
فهذا حديث عظيم.
À cause de ça, donc, ce récit est immense.
ايضا معنا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب والذي مرت سيرته بالامس.
يقول في كونتان avec nous ce bon temps généreux, عمر بن الخطاب, dont on a traité d'un essai de biographie hier.
يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد لنا أن الصحابة الكرام كانوا يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عمر بن الخطاب dit donc, pendant qu'on était chez le messager d'Allah un jour, cette portion dans ce récit est la confirmation que les compagnons du messager d'Allah avaient l'habitude de s'asseoir chez le messager d'Allah dans sa mosquée plus précisément.
كذلك تفيد هذه اللفظة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن رسول الله يحتجب عن الناس ولا يجلس معهم، بل كان يصلي بهم إماما ويجلس إليهم، فهذا دليل على تواضعه.
Et cela est aussi une indication de la modestie du messager d'Allah. Il n'avait pas l'habitude de s'éloigner de ses compagnons ou de se cacher de ses compagnons, mais il se mélangeait avec ces derniers pour discuter ensemble de différentes questions. Donc ça c'est aussi une indication de la modestie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
قال عمر: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر.
عمر بن الخطاب dit soudainement, un homme vint à nous avec des cheveux bien traités, d'une noirceur éclatante et des vêtements d'une blancheur aussi éclatante.
وهاتان الصفتان شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. الصفة الأولى باستطاعة الإنسان أن يفعلها، والصفة الثانية ليس باستطاعة الإنسان أن يفعلها.
Ces deux attributs par lesquels Omar Khattab décrit cet étranger, il était vêtu des vêtements d'une blancheur très forte et il avait l'aspect des cheveux d'une noirceur apparente, très frappante. Ces deux attributs, il incombe à chacun d'entre nous de se rassurer que dans ces deux attributs, l'homme est capable de réaliser de son effort un des attributs, c'est-à-dire avoir des vêtements blancs. Mais quand les cheveux noirs, ça ne dépend pas de l'être humain.
شديد بياض الثياب. هذا يدل على ماذا؟ الرجل كان شديد بياض الثياب. يدل على ماذا؟ من يعرف؟
Le monsieur était vêtu des vêtements très blancs. Qu'est-ce que cela indique? Qu'est-ce que cela connote? C'est une question qui vous a adressé.
نعم. شديد بياض الثياب أحسنت يدل على أنه حريص على النظافة.
Donc la réponse qu'a donnée le Cheikh Ahmed est celle que propose aussi l'imam. Cela est une indication que l'islam s'attache à la, c'est-à-dire à la propreté. L'islam table maintenant sur la propreté, l'hygiène.
وشديد سواد الشعر يدل على ماذا؟
Et maintenant, quand tu as senti qu'il avait des cheveux noirs, d'une noirceur frappante, qu'est-ce que cela indique? C'est aussi une question que vous ajoutez.
أنه ليس كبير في السن لأنه شباب لو كان كبير في السن يأتيه الشعر الأبيض.
Donc la réponse qu'a donné le chef que cela est une indication de la jeunesse et n'est pas, c'est-à-dire la réponse que donne aussi l'imam, ça prouve qu'il n'était pas beaucoup âgé, ce n'était pas un vieillard, c'était un homme jeune.
ولا يرى عليه أثر السفر.
Et on ne voyait pas sur lui ou on n'apercevait pas sur lui des traces de voyage.
العادة أن الذي يأتي من السفر قديما تجد ثيابه عليها غبار وتراب، وذلك الرجل ثوبه أبيض ليس فيه غبار، لا يرى عليه أثر السفر.
De manière logique, surtout dans l'ancienne époque. Chaque fois que quelqu'un venait de loin, ses vêtements devaient être couverts de poussière. Et c'est ce qui était connu, surtout dans une terre du désert.
ولا يعرفه منا أحد. يعني كأن حاله أنه خرج من بيته يعني يسكن معهم ولهذا ثوبه نظيف. لكن الغريب أنه لا يسكن ولا يعرفونه. ليس من أهل المدينة. وليس هيئته كأنه قادم من سفر.
C'est donc à partir d'ici que l'affaire devient un peu délicate dans la mesure où son apparence signifie qu'il est voisin de ces gens, il est comparable à quelqu'un qui sort de sa maison, à leur voisinage et se rend chez eux. Mais maintenant, ce qui est compliqué, c'est que personne ne le connaît. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient d'une terre éloignée, mais il n'a pas sur lui la trace d'un voyageur.
وسيتبين في نهاية الحديث أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام جاء على صورة بشر.
Mais à la fin de ce récit, cet équivoque va se dissiper, inshallah, car à la fin du récit, le messager d'Allah. Et ici qu'il s'agit de l'ange Gabriel qui est venu parmi eux sous la forme d'un être humain.
وأيضا يفيد اللفظ السابق السنة أن الإنسان يلبس الثياب البيضاء ولقد قال عليه الصلاة والسلام البسوا البياض وكفنوا بها موتاكم.
Et d'après ce qui précède, il est recommandé à un musulman ou un croyant de se revêtir des vêtements blancs. C'est-à-dire c'est meilleur que le musulman porte des vêtements blancs quand il était rapporté du messager d'Allah qui a dit « Portez vos vêtements blancs et ensevelissez vos morts dans un linceul de couleur blanche. »
ويجوز أن تلبس الألوان الأخرى كالأسود والأخضر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس عديدا من الألوان.
Même à l'Islam, il est permis aux musulmans de se vêtir d'autres couleurs en dehors du blanc, à l'instar de la couleur noire ou de la couleur verte et d'autres couleurs, quand le messager d'Allah, il était rapporté de lui qui portait des vêtements d'autres couleurs en dehors du blanc.
Al-mamnou'u min al-libas arba'a.
Et ce qu'il est strictement interdit à partir d'ici, soyez très attentifs. Les vêtements qui sont strictement interdits aux musulmans de porter sont au nombre de quatre.
الممنوع الأول لباس الحرير.
C'est-à-dire, il est strictement interdit à un homme de porter de la soie, vêtements de soie, tête de soie.
الممنوع الثاني أن تلبس لباسا خاصا بالنساء. فجاء النهي أن تتشبه بالنساء.
Il est strictement interdit à un homme de mettre des vêtements qui sont strictement reconnus dans la société que ce sont des vêtements portés par des femmes. De ce point de vue, si dans une société on reconnaît que ce vêtement est un vêtement de femme, inexpliquement interdit à un homme de porter ce genre de vêtement, car cela a été authentifié du messager d'Allah. Aussi, la troisième catégorie des vêtements qu'il ne faut pas mettre sont des vêtements avec lesquels se distinguent les infidèles et les mécréants, mais dans ce qui est strictement spécifique pour eux. Si on reconnaît que ça, c'est un vêtement strictement réservé à une catégorie d'infidèles, c'est-à-dire si on voit quelqu'un mettre ce vêtement, il est sanctionné d'être de leur groupe, un musulman doit se distinguer, il ne doit pas mettre un vêtement spécifiquement reconnu, n'est-ce pas, chez les infidèles.
والممنوع الرابع من اللباس الذي هو لباس الشهرة يعني يلبس لباس ملفت للنظر الناس لا تلبس مثله فيريد أن يشهر نفسه حتى يعرف فجاء النهي عن ذلك.
Alors la dernière catégorie des vêtements notamment sont des vêtements qui laissent apparaître l'individu, c'est-à-dire lui il veut se distinguer des autres en mettant un vêtement qui n'est pas connu dans la société, c'est-à-dire un vêtement, si on peut se permettre du mot, hein, pour se faire voir, pour se distinguer des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vêtir de cette manière. Avant donc de quitter sur cette rubrique des vêtements pour transiter à une autre, il faut noter l'importance pour l'homme de ne pas laisser apparaître sa nudité. L'homme doit ne pas se découvrir sa nudité.
Et
aussi, un homme ne doit pas porter un vêtement qui dépasse ses chevilles, car cela est strictement interdit.
نعود للحديث.
Retour donc sur les récits prophétiques.
فجاء هذا الرجل واقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم.
Alors, c'est venu parmi les Sahaba, s'est donc rapproché du messager d'Allah et en s'asseyant, il a joint ses genoux aux genoux du prophète Mohammed. صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ووضع كفيه هو يعني جبريل على فخذيه هو. جملة المتأدب.
إلى posé ses mains sur ses propres cuisses à lui. Question n'est-ce pas de bien se comporter dans son assise en face du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. مثل جلسة
التشهد.
Comparablement à l'assise qu'on fait dans notre tachahoud pour la prière.
وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ.
Et il a dit, oh Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam.
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
Et pour répondre à cette question, le messager d'Allah a dit, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en toute vérité sauf Allah l'unique et sans associé, et que Muhammad est son messager, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de le monde obligatoire, la zakat, que tu jeûnes durant le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les possibilités.
وهذه الإسلام تحتوي على الأعمال الظاهرة النطق بالشهادة ظاهر الصلاة ظاهرة الصوم ظاهر الحج الزكاة أجابه الإسلام أي الأمور الظاهرة فيه.
Il apparaît donc à la lumière de cette réponse que donne le messager d'Allah à l'ange Gabriel que l'islam renferme des actes apparents. La prononciation de l'attestation de foi est quelque chose qui apparaît. La prière apparaît, le fait de s'acquitter de l'aumône est apparent, l'aumône obligatoire à la zakat. De ce point de vue, L'islam a rendu, ou la légifération de l'islam a rendu obligatoire des actes apparents.
وهذا دليل على أن الإسلام يهتم بالأمور الظاهرة.
Et cela implique que cette religion s'intéresse aussi à l'aspect apparent des choses.
ليس كما يقول بعض الناس أهم شيء القلب جيد يكفي. تجده يفعل يشرب خمر يلبس لباسا محرما. لا لا الإسلام يهتم بالباطن ويهتم بالظاهر بصلاح الباطن وصلاح الظاهر.
Et c'est ce qui va en contradiction étroite. Avec ce quoi on rencontre bon nombre de nos frères qui disent l'essentiel c'est d'avoir le cachet l'intérieur purifié. Pour lui, il ne table que sur le cœur, sur le fond. L'intérieur, il dit si l'intérieur est bon, ça me suffit. Vous pouvez le rencontrer en train de prendre de l'alcool, en train de commettre des péchés, en train de contredire le messager d'Allah, Allah même. Et pour lui, l'essentiel c'est le cœur. Non. Le musulman ne pas s'intéresse aux deux. L'aspect interne, l'aspect caché et l'aspect apparent aussi. Il ne faut pas prendre primer sur un côté et délaisser l'autre. Il faut en même temps rassembler entre l'aspect caché et l'aspect apparent, car les deux sont recommandés par Allah.
كما أمرت الإسلام أن تملأ قلبك محبة وتوكلا أمرت في الظاهر أن تعفي لحيتك أيها الرجل.
En guise d'exemple, de la même manière qu'Allah ou cette religion de l'islam t'a ordonné de remplir ton cœur d'amour, à la base l'amour d'Allah, c'est l'amour d'adoration, et aussi le fait de placer strictement ta conscience en Allah, c'est aussi de cette manière que l'islam, ô toi homme, t'a recommandé de ne faire pousser ta barbe.
إذن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بأركانه الخمسة الظاهرة.
En répondant donc à cette question, le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les cinq piliers de la foi. Et dans le récit suivant, c'est-à-dire le troisième récit, le récit d'Abdullah ibn Omar, le cheikh reviendra pour expliquer ou pour dire quelque chose sur les cinq piliers de l'islam.
فقال الرجل صدقت قال جبريل بعد ذلك صدقت.
Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a répondu à ces questions, l'interrogateur qui est l'ange Gabriel, comme le cheikh nous l'a dit à ce métier, a dit au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, tu as dit vrai.
قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني العادة أن الذي يسأل يكون جاهل فكيف يسأل وكأنه جاهل ثم يقول صدقت يعني كأنه يعلم ذلك من قبل فهذا العجب.
C'est donc ici que Omar ibn Khattab et les autres compagnons expriment leur étonnement. Le monsieur pose des questions. Il est habituellement connu que celui qui pose des questions est censé ne pas connaître sa réponse. Mais il pose des questions et puis il cachette aussi que la réponse donnée est vraie. C'est ça, n'est-ce pas, la surprise, c'est ça la cause de la surprise des compagnons généreux.
وهذا يدل على أنه ليس بجاهل وإنما هو كما جاء في آخر الحديث أراد أن يعلم الصحابة هذا الدين.
Et ceci à partir d'ici que c'est lucide le fait que l'interrogateur ou celui qui pose les questions n'est pas un ignorant. Mais en réalité, il avait un autre but, c'était de faire comprendre ou d'enseigner aux compagnons à la base du récent des musulmans de manière suivie quelque chose de cette religion.
قال الرجل أخبرني عن الإيمان.
Et l'interrogateur continue dans le récit, il dit ô messager d'Allah, informe-moi au sujet de la foi.
فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
En répondant à la question, le messager d'Allah dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et au destin dans son bien et son mal. Cela est nommé les six piliers de la foi.
لا يتحقق إيمان العبد إلا إذا آمن بهذه الستة الأمور.
Et un serviteur ne va pas réaliser la foi comme cela se doit, sauf il aura mis en vigueur ces six piliers de la foi.
أولها الإيمان بالله.
Le tout premier pilier consiste à croire en Allah.
والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور.
Et croire en Allah عز وجل rassemble croire en quatre choses.
الأول الإيمان بوجود الله.
Premièrement, il faut croire en l'existence d'Allah.
وأن الله موجود.
C'est-à-dire, il faut confirmer qu'Allah existe.
فوق سبع سماواته.
Établi au-dessus des sept cieux.
مستوى على عرشه.
Établi sur son trône.
وعلمه في كل مكان.
Et son savoir cerne toutes choses.
الأمر الثاني الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت.
Il faut à la suite croire qu'Allah عز وجل est le Seigneur de toutes choses. Il faut croire à la Seigneurie d'Allah. Qui signifie qu'Allah est le Créateur de toutes choses, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui pourvoit à la subsistance de toutes les créatures sans aucune exception.
الأمر الثالث الإيمان بألوهيته وأنه المستحق لكل أنواع العبادة.
Et puis il faut croire aussi à la déité d'Allah, le très vénéré, qui implique qu'à lui seul revient toutes les adorations. C'est-à-dire Allah c'est le seul qui doit adorer, c'est le seul qui mérite d'être adoré, entre donc parmi les adorations, l'invocation. Il a cité l'invocation, l'immolation ou le sacrifice, la confiance en Allah, l'imploration de son secours, le fait de chercher refuge auprès d'Allah, tous les actes d'adoration que vous comptez.
والأمر الرابع فيما يتعلق بالإيمان بالله قلنا الإيمان بوجوده بربوبيته بألوهيته الإيمان بأسمائه وصفاته وأن له أسماء حسنى وصفات علا.
De ce point de vue, si l'homme croit à l'existence d'Allah, à la Seigneurie d'Allah, à la Déité d'Allah, tout n'est pas fini, il faudrait qu'il complète cela par la foi en les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal.
La budda fi l'iman billah an tu'mina bi hadhihi al-arba'i masa'il.
Et quelqu'un ne peut pas réaliser sa foi en Allah sauf s'il croit à ces quatre choses.
Wa li hadha ahlul bid'ah الذين يخالفون في توحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات لم يحققوا الإيمان بالله.
De ce point de vue donc, les innovateurs qui ne réalisent pas la foi en la Seigneurie d'Allah ou alors dans les noms et les attributs d'Allah ne peuvent absolument pas parachever la foi ou croire comme cela se doit. En bref, ils ne réalisent pas la foi du tout.
ثم قال وملائكته فيجب الإيمان بالملائكة.
Ensuite, le professeur Allah s'a mentionné les anges, donc il est strictement obligatoire, obligé de croire aux anges.
وتضمن ذلك الإيمان بوجودهم.
Entre donc dans la foi en les anges, le fait de croire en leur existence.
وأن الله خلقهم من نور.
Et qu'Allah les a créés de la lumière.
وأن لهم أعمالا يقومون بها.
Et ils ont n'est-ce pas des fonctions et des tâches qu'ils exécutent, qu'ils réalisent.
منهم الملك الموكل بالمطر.
Il y en a qui sont chargés des pluies.
وملك موكل بالجبال.
Il y en a qui sont chargés des montagnes.
وملك موكل بكتابة أعمال الإنسان.
Il y en a qui sont chargés d'écrire les œuvres des serviteurs.
وملك موكل بخلق الإنسان في رحم أمه.
Il y en a qui sont chargés de veiller sur le fœtus lorsqu'Allah le crée dans le sein de sa mère.
وملك بالموت.
Il y a l'ange qui s'occupe de la mort. ملائكة les âmes.
وملك بكتابة الوحي لنقل الوحي وهو جبريل.
Il y a l'ange qui est chargé de transmettre la révélation au prophète qui est l'ange Gabriel.
ونؤمن أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Et nous croyons que les anges ne désobéissent pas à Allah de ce qu'Allah leur ordonne et ils font à la lettre tout ce qu'Allah leur donne comme recommandation.
ثم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والإيمان بالكتب أن الله أنزل كتبا على رسله.
Et quant à la foi en les livres, il s'agit de croire qu'Allah a révélé à ses prophètes des livres.
وَهِيَ كَلَامُ اللَّهِ
Et ces livres-là, en fait, constituent la parole d'Allah.
وَمِنْهَا التَّوْرَاةُ أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى
Parmi ces livres, on compte dans la Torah, descendue sur Moussa alayhi salam.
وَالْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى
L'évangile descendu sur Isa, Maryam.
والقرآن على محمد.
أنبهوتهم كنت في القرآن في ديسمبر في نوفمبر بشهد يناير.
صلى الله عليهم أجمعين.
لقفل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وصحف إبراهيم.
الثلاثة جثث الأنبياء إبراهيم.
والزبور على داود.
الزبور ديسمبر في داود عليه السلام.
فنؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله وأنبياء.
Donc nous croyons qu'Allah a descendu les livres à ses prophètes et messagers.
يجب أن نؤمن بذلك.
Il est strictement obligatoire pour nous de croire à cela.
والإيمان برسله.
Et la foi en les messagers.
أن نؤمن أن الله أرسل رسلا ليبلغ الناس التوحيد.
Nous croyons donc qu'Allah a envoyé des messagers pour transmettre aux gens le respect. Et l'unicité d'Allah, c'est le tawhid.
منهم رسل نعرف أسماءهم ومنهم رسل لا نعرف أسماءهم.
Et de manière évidente, les noms de tous les messagers ne nous est pas parvenu. Il y en a dont on connaît les noms, c'est-à-dire cela qu'Allah a mentionné dans le texte révélé. Il y en a d'autres dont nous ne connaissons pas les noms.
قال الله رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك.
Et cela est renferi par la parole d'Allah qui dit. Ô Mohammed, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire.
والرسل كلهم جاءوا بهدف واحد ومهمة واحدة وهي أن يقولوا للناس الدعوة إلى التوحيد.
Et tous les messagers sont venus avec une même mission, une même préoccupation, un même but qui consiste à appeler les gens. Les créatures d'Allah au respect de son unicité qui est le tawhid.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Et c'est cela qui ressort de la parole d'Allah ou du décret de cette vie. Allah dit, nous avons envoyé à toute communauté un messager qui leur dit, adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités.
ثُمَّ قَالْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَيَجِبُ الْإِيمَانِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.
Et ensuite, Allah, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la foi en le jour dernier. Donc, c'est strictement obligatoire de faire foi en ce jour.
وَسُمِّيَ الْيَوْمِ الْآخِرِ لِأَنَّهُ لَا يَوْمَ بَعْدَهُ هُوَ آخِرُ الْأَيَّامِ.
Ce jour a été nommé jour dernier, parce qu'après ce jour, il n'y aura pas d'autre jour.
فَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ.
Alors nous croyons à la sortie des tombes, c'est-à-dire à la résurrection, au jugement, à la balance de nos œuvres et tout ce qui suit la foi en le jour dernier.
وَأَنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُ الْعِبَادَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.
Et qu'Allah عز وجل va juger les gens en fonction de leurs bonnes œuvres et de leurs mauvaises aussi.
وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.
Et qu'Allah va faire sortir tous ceux qui sont sous la terre, dans les tombes.
ثم قال وبالقدر خيره وشره فنؤمن أن الأقدار من الله جل وعلا
نؤمن donc les choses ont été proportionnellement établies par Allah, c'est-à-dire le destin dépend d'Allah Azza wa Jal.
كل ما يحصل لك من خير أو شر أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض بقدر الله.
De ce point de vue, tout ce dont l'homme est victime ou atteint, que ce soit la richesse, la pauvreté, la maladie, l'état parfait de santé, n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve, est par le décret d'Allah Azza wa Jal.
وأن الله يعلم كل ذلك وخلقه وكتبه.
Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout cela et il a écrit et il a décrit.
قال الرجل صدقت.
Alors une fois de plus, l'interrogateur ou celui qui interroge a dit, ô messager d'Allah, tu as dit vrai.
ثم قال أخبرني عن الإحسان.
Il a donc invité en demandant une fois de plus au messager d'Allah, mais cette fois-ci, de lui parler de l'excellence dans l'adoration.
فقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
En répondant à cette question, le messager d'Allah dit, l'excellence dans l'adoration consiste à ce que toi, le serviteur, tu adores Allah comme si tu le vois. Et bien évidemment, tu ne le vois pas, mais c'est Allah qui te voit. Allah te
sait.
Et ça, c'est vraiment le degré le plus élevé de la
religion.
Lorsque tu adores Allah, quand tu as compris par exemple la prière et qu'il te revient à l'esprit qu'à ce moment-là tu es observé par Allah, de manière naturelle, tu vas perfectionner ta prière. Alors les savants ont donc nommé cet ihsan qui était défini par le messager d'Allah, cette excellence dans l'adoration, les savants ont appelé ça le lieu de témoignage. C'est comme si tu es en train de voir Allah de tes yeux.
أن تعبد الله كأنك تراه.
Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais.
فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم تعبد الله بهذا المعنى، فإنه يراك. وهذا مقام المراقبة. يعني تستحضر أن الله يراقبك، أن الله ينظر إليك.
Alors, si toi, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois, bien effectivement tu ne le vois pas, les savants appellent ça le lieu de témoignage, le lieu d'observation. Maintenant, il doit te venir à l'évidence qu'Allah, quant à lui, t'observe. Les savants ont donc nommé ça, si vous permettez le terme, c'est approximatif ce qu'on va dire, le lieu de contrôle. C'est-à-dire, le serviteur doit se sentir en tout lieu, en tout temps, observé par Allah Azzajal. Donc, c'est cette approche-là que le serviteur doit avoir pour perfectionner ses rapports avec Allah. Parce qu'il doit toujours avoir l'esprit qu'il est contrôlé, qu'il est observé, mais pas d'Allah Azzajal. De ce point de vue, si le serviteur réalise les deux approches, il adore Allah comme s'il avait en face de lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, ça permettra aux serviteurs d'adorer Allah à la perfection et il évitera au maximum et de toute son énergie d'éviter les péchés. C'est ainsi donc que celui qui interroge a candidé pour dire au messager d'Allah, informe-moi au sujet de l'heure, ou du traitement de l'heure.
هذا السؤال أخبرني عن الساعة. السؤال رقم كم؟
Ça fait donc la quantième question. Il a déjà posé au préalable combien de questions?
ما هو السؤال الأول؟ من يعرف؟
Quelle est la première question?
نعم. أخبرني عن الإسلام. السؤال الثاني.
أوكي. أنا شك الإيمان.
أخبرني عن الإيمان. السؤال الثالث. أخبرني عن الإحسان. السؤال الرابع. تفضل. أخبرني عن الساعة. ما هي الساعة؟ يعني أخبرني متى تقوم القيامة.
على cette question là, informe-moi au sujet de l'heure. Doit être compris que celui qui interroge est en train de demander au messager d'Allah de lui dire quand est-ce qu'il va se dresser l'heure, c'est-à-dire moment du dressement de
l'heure.
Est-ce qu'on connaît un seul individu parmi les créatures d'Allah qui connaît quand est-ce que l'heure va se dresser? Aucun être humain ne connaît le jour où l'heure va se dresser, ou le moment du dressement de l'heure. Ni même les génies, ni même les anges, ni même les prophètes, ni même les martyrs, aucun être humain, soit-il croyant ou infidèle, aucune créature ne connaît le dressement de l'œuvre, le moment exact du dressement de l'œuvre.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله.
الله عز وجل آدم رانشري سلا دام القرآن عن جزاء محمد إذن تروج سجد برسمان دل ريبون عن جزاء كتن صبوات أفاتين إسفزيزمان الله.
وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة.
إذن ظهر جزاء الله عز وجل سيد le moment du dressement de l'heure est auprès d'Allah, et est connu par Allah, connu d'Allah seul.
فماذا تتوقعون حينما سأل جبريل النبي أخبرني عن الساعة هل سيجيبه عن موعدها؟
À partir de tout ce qui peut être, qu'attendez-vous donc lorsque l'ange Gabriel interroge le messager d'Allah au sujet du dressement de l'heure, est-ce qu'il va répondre en donnant l'échéance du dressement de l'heure?
قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا تسألني أنا لا أعلم أكثر منك إذا كنت أنت تجهل فأنا أجهل علم الساعة.
Donc en répondant à cette question, le messager d'Allah est en train de dire à l'ange Gabriel que toi et moi, tu t'es rubis, nous sommes pareils. Si toi, tu dis, tu n'as pas de savoir sur cette question, sache que tout comme toi, je n'ai pas moi aussi de savoir.
أراد جبريل أن يعلم الناس أن الساعة أمرها إلى الله.
في هذه الكيسيون لانج جابيل a voulu faire comprendre aux hommes que l'heure ou l'échéance de l'heure n'est connue que d'Allah seul.
فقال جبريل أخبرني عن أماراتها.
Donc ainsi qu'il a transité pour demander au messager d'Allah au sujet des signes du dressement de l'heure.
وهذا السؤال رقم كم؟
Ça fait la cinquième question.
خمسة أم ستة؟ خمسة. من يعطيني الأسئلة الخمسة؟
كيف رأبلي كل الأسئلة؟
تفضل. الإسلام. أرفع صوتك. الإيمان. الإحسان. الساعة. علاماتها. أحسنت أماراتها. قال فأخبرني عن أماراتها. طيب إذا أنت لا تعلم متى الساعة ما هي العلامات التي تدل على قرب الساعة؟
De ce point de vue, ô messager d'Allah, si tu n'as donc aucun savoir de l'échéance du dressement de l'heure, mais tout de même, quels sont les signes qui pourront nous permettre d'estimer que le dressement de l'heure s'approche?
وأقول لكم أيها الأحبة علامات الساعة على قسمين.
Et je profite ici pour vous signifier, chers bien-aimés, que les signes du dressement de l'heure sont de deux sortes. Il y a donc les soins parmi ceux-ci des grands signes et aussi des petits
signes.
En ce qui concerne les grands signes, dès que le premier sera effectif, c'est terminé, l'échange du dressement sera imminent.
Et le premier,
n'est-ce pas, grand signe du dressement de l'heure, c'est la sortie de l'Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal.
Et ensuite,
sera suivie la descente de Jésus, fils de Marie, fils de Mariam, qui va donc
tuer
l'Antichrist.
وهناك علامات صغرى
هي نسبة بيتين
بعضها وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
certains de ces petits signes ont eu lieu du vivant du messager d'Allah
وبعضها وقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم
d'autres ont suivi l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم
فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب جبريل بعلامتين اثنتين
et le prophète صلى الله عليه وسلم répondant donc à cette question de Jibril a donné deux signes.
أن ترد الأمة ربتها.
L'un des signes sera qu'une femme mettra au monde son maître. C'est une traduction approximative. Une femme mettra au monde son maître.
أن تنتشر الفتوحات الإسلامية.
Alors lorsque l'islam va gagner beaucoup de terres.
و وينتصر المسلمون على الكفار.
Et les musulmans vont l'emporter, ils auront le dessus sur les infidèles.
ويأخذون من نسائهم.
Ils vont prendre les soins de leurs femmes.
ويسمون إماء.
Alors celles-là seront nommées des servantes.
فيكون للرجل عدة إماء.
Alors l'homme à sa propriété aura beaucoup de servantes.
فترد تلك الإماء أولادها.
Alors ces femmes-là, comme le texte l'autorise, un homme peut aller vers sa servante.
فالولد يكون كوالده سيد.
Alors si un enfant viendra de ces relations, l'enfant ne pourra pas être un esclave car il est l'enfant d'un roi, d'un chef.
وأمه من الإماء.
Alors que ta mère sera parmi les servantes.
وهذا وقع في عهد عمر بن الخطاب وما بعده من الصحابة.
Et cela est effectivement lié du vivant d'Umar ibn al-Khattab et beaucoup d'autres parmi les compagnons de Jésus.
ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أي تجد رجل البادية الذي لا يلبس نعالا حافي ولا يجد له لبس تجده لبسه قليل وأقدامه حافية وعنده غنم يبني بناء طويلا.
Deuxième thing, c'est que tu verras des vanitiers, des dindés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de vêtements, en bref des pauvres, des bergers, qui vont ne pas se rivaliser dans la construction des grands bâtiments. C'est-à-dire quelqu'un qui vient en campagne, un berger, il accompagne son mouton, ses moutons et ses béliers d'être qui est là. Il n'a même pas de souliers. Il porte des vêtements vraiment fanés. Mais parmi les signes de la fin des temps, des gens comme ça vont édifier des grands et bâtir des grandes édifices. Et cela aussi a eu lieu. Si bien que certaines personnes en campagne ont énormément de moyens.
ثم انصرف الرجل بعد ذلك.
Après l'interrogateur s'en est allé.
قال عمر فلبثت مليا يعني بقيت وقتا طويلا.
Alors Omar ibn al-Khattab dit, je suis resté un bon bout de temps.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر يا عمر أتدري من السائل؟
C'est ainsi que le messager d'Allah a interrogé Omar en lui demandant, connais-tu la personne qui posait cette question?
قال عمر الله ورسوله أعلم.
Et en répondant, Omar ibn al-Khattab a dit, Allah et le messager seul en sont le savoir.
وهذا دليل على أن الصحابة الكرام إذا الصحابة الكرام إذا جهلوا شيئا فماذا يفعلون؟ هل يجيبون بجهل أم يقولون الله أعلم؟
Et à partir d'ici, nous avons une très bonne indication d'un des comportements des compagnons généreux. S'ils n'avaient pas de savoir sur une question, ils n'osaient jamais répondre à la question et remettaient le savoir à Allah subhanahu wa ta'ala.
حَتَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ أَظْهَرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ.
Et cela ne peut pas nous étonner parce qu'il sort de l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'osait jamais répondre aux questions dont il n'avait pas de savoir. La preuve, c'est que l'ange Gabriel a interrogé au sujet du traitement de l'heure. Il a dit qu'il n'en sait rien. Sallallahu alayhi wa sallam.
وهذا الواجب علينا اليوم للأسف بعض المسلمين جاهل وتجده يفتي.
Et c'est effectivement obligatoire pour nous d'avoir comme comportement. Mais de manière regrettable aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, ignorants, ont décidé quand même de répondre à des questions.
جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله من أقصى الدنيا.
Un homme vint à l'imam Malik, le Malik ibn Anas ibn al-Hijra. Cet homme venait de l'extrémité du monde. C'est-à-dire qu'il a fait un long voyage pour venir questionner l'imam Malik ibn Anas.
جاء الإمام مالك في المدينة وسأله عدة أسئلة.
Et ce monsieur a donc interrogé le grand imam au sujet d'un bon nombre de questions. Et le plus grand nombre de questions, l'imam Malik disait, je n'ai pas de savoir. Et la personne s'est trouvée un peu embêtée, si vous voulez pointer. Il dit, mais comment je vais rentrer parmi les gens? Il a dit l'imam Malik, le grand imam Malik, qui n'a pas de savoir.
Ma, l'imam Malik, il y a pas Allah.
cette attitude d'Imam Malik est l'attitude de quelqu'un qui craint son Seigneur.
لا يريد أن يرضي الناس ويسخط الله.
Il n'a pas besoin de satisfaire les hommes ou de se chercher l'agrément des hommes et d'attirer la colère d'Allah.
يقول الله وما تقف ما ليس لك به علم.
Et au Seigneur, notre Seigneur très vénéré du défis de cette vie, s'adresse à toute l'humanité en disant ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de savoir.
والملائكة لما سألهم الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.
Et cette bonne école est ancienne comme le monde, parce que avant les êtres humains, lorsqu'Allah عز وجل a questionné les anges une question au sujet d'un point, les anges ont dit tu reviens à toi, nous n'avons pas de savoir sauf ce que tu nous enseignes.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس سئل النبي قديما عن الروح قال لا أعلم.
Dit notre messager, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prêcheur bien-aimé prophète, puis interrogé au sujet de l'esprit. Il a dit, je n'ai pas de savoir sur l'esprit.
وأنا بالأمس سألني الشيخ عبد الله عن الزهراوان في حديث أن سورة البقرة وآل عمران تسمى الزهراوان، فسألني أثناء الدرس قال ما معناها؟ قلت الله أعلم.
Donc l'imam aussi se souvient de l'épopée entre lui et moi hier soir dans son rappel. Il a mentionné un nom en arabe dont le sens ne me venait pas en français. J'ai donc voulu que le cheikh m'aide dans le sens arabe pour que j'ai quand même une traduction approximative ou approchée. Le cheikh lui-même m'a dit qu'il n'a pas de savoir. Ce n'est que tout à l'heure avant la paix de As, quand je suis allé saluer le cheikh qui m'a donné la lumière sur le mot Zahoran, qui signifie deux lumières. Mais hier, quand je lui ai posé cette question, il a dit franchement, je n'ai pas une idée.
ماذا قلت مؤخرا؟ ثم وجدت جوابا وراجعت المسألة وقرأت كلام العلماء، رجعت لكتاب ابن النهاية في غريب الحديث لابن الأثير وذكر أن الزهراوان أي المنيران فأخبرته.
Donc le chef lorsqu'il a fait des recherches, il a trouvé n'est pas un livre qui est sur le vocabulaire des termes qu'on trouve mentionnés dans les récits prophétiques. Il est rentré dans cet ouvrage, il a donc le sens du mot. Avant la paix de Asra, comme je vous l'ai expliqué, il m'a donné le sens. Nous ne devons jamais avoir un petit dire qu'on n'a pas de
connaissance.
Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'innovateurs qui courent le risque de répondre à toutes les questions pour impressionner les gens, pour se laisser apparaître comme des
érudits.
Un vrai érudit, un savant est celui qui craint Allah et qui ne prononce pas une parole sauf au prix d'un savoir sûr.
وقد حضرنا دروس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان يسأل عدة أسئلة يقول الله أعلم الله أعلم يراجع يعني نراجع المسألة ثم نجيبها.
Donc il dit que Cheikh bin Baz, lorsqu'il dit partager les assises du Cheikh bin Baz, on posait beaucoup de questions, Cheikh bin Baz, mais il disait non, je dois d'abord faire des recherches, je dois relire sur la question. Il ne répondait pas directement, il repoussait la réponse pour d'autres assises futures. Et plusieurs fois, il avait l'habitude de se comporter de cette manière,
vraiment. وفوق كل ذي علم عليم.
Tu te souviens de la parole d'Allah où Allah dit au-dessus de tout savoir, savant, il y a un savant.
كذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وعلماء السنة والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك كلهم إذا جهلوا يقولون الله أعلم.
Alors le cheikh a cité cette attitude de beaucoup de savants contemporains, à l'instar de Cheikh Ibn Taymiyyah, de Cheikh Nasr ibn al-Albani, n'est-ce pas, des grands savants contemporains, et il a remonté le temps vers les savants des meilleures générations, tels qu'Imam Shafi'i, Imam Malik ibn Anas, Imam Ahmad ibn Hanbal, et tous ces érudits dignes de confiance, dignes de savoir, chaque fois qu'ils étaient interrogés sur des questions dont ils n'avaient pas la maîtrise, ils s'en remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne pourraient jamais le dire.
قال رسول الله يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم.
دكتور بنين بن أبي رزق. Rasulullah SAW a demandé à Omar ibn Khattab, as-tu la lumière sur celui qui pose des questions? Sais-tu de qui il s'agit? Et Omar ibn Khattab a dit, Allah est son messager, seul on le savoir.
قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
Il a donc dit qu'il s'agit de l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion.
وهذا يدل على أن الملائكة يستطيعون أن يتشكلوا على صورة البشر إذا أذن الله.
Et ceci est aussi une indication pour revenir sur la question des anges qui a été discutée déjà par le chef. Que les anges, par la permission d'Allah, ont la possibilité de prendre des formes humaines.
كذلك الحديث يبين لنا أهمية الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان.
Et ce récit nous indique aussi l'importance de la religion. La religion qui est la soumission, la foi et l'excellence dans l'adoration.
ومتى قيام الساعة بالتحديد هذا ليس من العلم المهم.
En ce qui concerne l'exactitude du traitement de l'heure, c'est-à-dire la question sur le traitement de l'heure avec exactitude, cela ne fait pas partie des questions importantes. Mais le plus important, c'est de se préparer pour ce jour inéluctable.
Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam.
رجل أسأل حجة أسئلة ولم أول أدب الأنبياء المرسلين على
نعم
وأسألت السؤال الثاني لماذا لم يؤمن بذات الأعمى
نعم
وكذلك إذا قيل من أورى الإنسان إلى الكفر من هذه المعاني هل إذا قال الإنسان بدون شيء فوق فلو قدر صراطه الشرعية هل يمكن صراطه وصراطه الشرعية؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فلم يرد في الكتاب والسنة عدد للمرسلين وإنما ثبت في بعض الآثار أنهم أكثر من 114 ولكن هذا ليس فيه متعلق بعبادة لأن الله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فعددهم بالتحديد لا يعلم لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة والإنسان لا يتكلم إلا بعلم.
Donc le cheikh en bref il décourage ce genre de questions et il fait comprendre que le nombre d'envoyés n'a pas été confirmé par le Coran et la Sunna. Mais c'était un hasard venant de, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont tenté de parler de 140 000, des choses pareilles. Mais le chef dit, aussi longtemps que cette question ne fait pas partie des questions de foi, le plus important pour nous c'est de savoir qu'Allah a raconté des histoires de certains et il s'est sur les histoires des autres. Et aussi longtemps que le texte révélé n'a pas tranché sur la question, ça fait partie des savoirs qui ne sont pas importants.
الثياب الأحمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الأحمر الخالص يعني الأحمر كاملا ليس مثل هذا مخطط هذا أحمر ومعه أبيض النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا يمانيا أحمر يعني مخطط أما لباس كله أحمر كامل فهذا منهي عنه لماذا؟ لأن فيه سبحان الله يعني يزعج النفس اللون الأحمر القوي يزعج النفس.
Il était authentifié du messager d'Allah qu'il a interdit de porter un vêtement vêtement rouge dans la totalité, c'est-à-dire un vêtement rouge dans sa totalité est strictement interdit. Mais un vêtement multicolore avec un peu de rouge, un peu de petit, là c'est interdit, car on a rapporté que le messager d'Allah a porté un manteau venant du Yémen, qui était coloré aussi du rouge. Il était multicolore et on trouvait quand même du rouge. Et pourquoi vous avez vu le chef a pris l'exemple de son manteau, son turban, il a dit c'est rouge, mais il y a du blanc, dont l'interdiction ne touche pas à cela. سؤال آخر من عورة
الرجل. عورة الرجل من السرة إلى الركبة يجب على الرجل أن يسترها، وما عدا ذلك فلا مانع، ولكن الأفضل أن الإنسان يكون على هيئة طيبة، إن انكشف شيء من غير العورة لا بأس جائز. أما في الصلاة فلا شك أن الزينة في الصلاة مهمة، بل جاء النهي عن أن لا يصلي الإنسان وليس على عاتقه شيء.
Donc en ce qui concerne les vêtements de l'homme, il est connu que la nudité de l'homme va du nombril au genou. Si un homme marche pour sa vie ayant couvert la partie indiquée, il n'y a pas de mal. Mais en ce qui concerne la prière, il est méritoire que quelqu'un se couvre, parce que le décor dans la mosquée et dans la prière est légiféré par Allah. Et aussi, le cheikh rapporte qu'il était authentifié du messager d'Allah, où on a rapporté du messager d'Allah qui interdit à un homme d'accomplir la prière alors que ses épaules sont exposées. Non. Salam, cheikh. Fadal, cheikh. Comment?
الذين يحتجون بالقدر يفعل المعصية ويقول قدرها الله عليه، لا شك أن قوله هذا باطل. نعم.
Donc le chef salue les questions du petit frère et qui sont des questions très importantes. Comment orienter celui-là qui accuse le destin quand il commet des péchés?
أولا الله
يجي كمان الشيء يجي اللي تسين كمان فوتها كمان الشيء تكفرون أبجيل اللي نقول إنه كذا.
أولا الله ما أمرك أن تفعل المعصية.
Premièrement Allah ne t'a jamais ordonné de commettre le péché, de commettre le mal.
أنت فعلت هذا اختياري.
Tu as commis le mal par ta volonté.
فأنت لست مسير، أنت مخير.
Parce que tu n'es pas contraint, mais bien plus tu as le choix.
فأنت ذهبت بنفسك وفعلت المعصية.
في عليه لتفوق بيرسون كوميت لو بيشي.
وسرقت.
فرزمت أقولي.
وظلمت.
وي كلكان كوميت لينفيتي.
والله حرم السرقة وحرم الظلم.
يا لا أنت يدي الظلم تكوميت أنت يدي لينفيتي.
فنقول أنت الذي فعلت الخطأ.
Alors on dit c'est toi qui as commis la gaffe, c'est toi qui as commis l'erreur, c'est toi qui as commis le péché. Tout ce qui est dans ce monde effectivement est décrété par Allah.
ولكن أهل السنة لا يحتجون على المعاصي بالقدر.
Mais les gens du groupe de la tradition, les gens qui sont sur le droit chemin, les Ahlus Sunnah al-Jama'a, ils n'argumentent jamais le destin pour commettre des péchés.
فهذه طريقة أهل البدع المخالفين للصراط المستقيم.
Les gens qui agissent de cette manière sont des innovateurs qui ont dévié du droit chemin.
والله جل وعلا يحاسب العباد ويقول لهم بما كسبت أيديكم، لم يقل لهم بما قدرناه عليكم، بما كسبت أيديكم.
الله سبحانه وتعالى lorsque il tient compte des œuvres des gens, il est précis dans ses discours dans le Coran. Allah dit à cause du mal que vos mains ont perpétré, à cause de ce que vos mains ont posé comme acte. Allah ne dit pas à cause de ce que je vous ai décrété, non, il dit à cause de ce que vos mains ont perpétré.
ولهذا لو كنت نويت أن تذهب إلى المعصية ونويت أن تذهب ثم تذكرت الله وقلت خلاص لا أذهب إلى المعصية ورجعت ما جاء القدر لأنك كنت عاقل ورجعت إلى الله فليس القضية هو القدر الذي جعلك تعصي إنما نفسك والشيطان.
Dans un lieu de mal, et il se souvient de son Seigneur, il s'arrête, il rentre. On ne va pas dire, on ne va pas mêler les desseins dans l'affaire à la base, mais on va dire que c'est sa volonté. Il a voulu commettre un forfait, il s'est souvenu de son Seigneur, il est revenu à ses pas. Non, quelqu'un d'autre. Que vous avez posé? Attendez, votre question ou celle du père?
Non,
ماذا يقول؟
ويقول يريد تتعقد مرة أخرى لكبية فيها لنا بعض الناس.
لا هذا لا نجيبه الآن لأنه هو قاطعنا نكمل ثم نعطيه. قل هذا الكلام.
يقول الشيخ إن جيكم نلقون بعد أكيسون معنا بس كنت نزين كده.
أنا كنت أظنه يتحدث عن نفس السؤال.
لي فانتك مزيتي دان لميم لانتي كوي سليلا بين فيني دابور دونك أفيك لوت.
فنقول هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما هو؟
يجن كيسون
أي السؤال الثاني من الأخ. أنا أتمنى أننا ننتهي من سؤال ثم يكون هناك سؤال آخر. النصيحة من كان والداه على غير الإسلام أو أحدهما
أو
مسلمون وضعفاء في الإسلام أولا يبذل وسعه في هدايتهم.
Donc la première des choses pour quelqu'un qui a des parents non musulmans ou alors des parents musulmans mais qui prennent un peu les pas, il doit s'investir totalement, il doit mettre le paquet pour les guider. Il doit s'attacher à les rapprocher de l'islam. À partir d'ici, les discours ne sont pas la bienvenue, mais plutôt ses bons comportements et ses nobles caractères.
لأنه تبين أن الدعوة بالعمل والتطبيق أفضل من الدعوة بالقول.
Car il a été élucidé que la prêche par le bon comportement, la bonne manière est dans la plupart des cas plus efficace.
ولهذا الناس دخلوا في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لدعوته لهم فقط لأنهم يعلمون أخلاقه وأنه لم يؤذي أحدا ولم يشتم أحدا.
يسبون النبي بقول الجماعة من رسول الإسلام جميعاً في مساجد الله. كنت بس من بس تفكو. Notez pas ses nobles comportements parce que vous savez bien que le messager d'Allah était doté de nobles caractères et qu'il ne nuisait jamais à un musulman.
الأمر الثاني لا بد أن تجعله في بالك أن الهداية بيد الله.
Et la deuxième chose, et ça c'est peut-être même aussi important que la première, sinon plus importante que la première, c'est qu'il faut avoir la clairvoyance que la guider n'est qu'entre les mains du Seigneur.
فإذا حرست وبذلت وسعيت وقلت ودعوت ولم يستجب فلا تحزن عليهم.
Alors, si tu as fourni le maximum d'efforts, tu as parlé, tu as prêché, tu t'es investi avec tous tes moyens et non pas collaboré à ton appel, ne t'afflige pas à leur encontre.
لو علم الله فيهم خيرا سيهديهم اليوم أو غدا أو قبل موتهم.
Et si Allah, dans sa science ancienne, sa science parfaite, pense en eux du bien ou sait qu'il y a en eux du bien, Allah inévitablement va guider ces derniers dans l'islam Ça peut être aujourd'hui ou demain ou avant la mort.
وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه إلى اللحظة الأخيرة ولكنه لم يسلم فحزن فقال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
فصلى لهم سبوا تشلى جدي de son oncle paternel Paul. Toute sa vie jusqu'au dernier instant de la mort de l'homme et il est mort infidèle et Allah عز وجل أدون c'est-à-dire soulager le poids, le poids qu'avait le messager d'Allah sur la question en disant, en descendant du dessus de 7e verset dans lequel il a dit, serve-toi Mohammed, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais c'est Allah, quant à lui, qui guide celui qu'il veut.
فأنا أنصح الذي يريد هداية والديه أو يقربهم ويقويهم بالإسلام بأربعة أمور.
Alors celui donc qui a des parents non musulmans et qui s'attache à leur guider, l'imam va nous proposer quatre choses qui peuvent aider les uns les autres dans cette lancée.
الأمر الأول.
La première chose.
أن تصلح نفسك. أن تهتم بنفسك وتكون أنت قريب من الله.
La première des choses, il faut purifier, reformer ta propre personne. Tu dois être un modèle dans l'islam. Tu dois veiller à ta propre âme. Tu dois faire tout et tout pour être un très bon croyant. Et tu tables aussi beaucoup sur ton intention.
Et
ce point de vue, tu dois purifier ton cœur et tes œuvres.
L'amour afghan. أن تحسن إلى والديك.
Deuxième chose, il faut être bienveillant envers tes parents.
وتبرهم برا شديدا.
Et tu dois être d'une extrême bonté envers eux.
أن تخدمهم.
Tu dois être à leur service.
أن تعطيهم مال.
Tu dois leur donner de tes moyens.
أن تبتسم لهم.
Tu dois être souriant à leur égard.
أن تزورهم.
Tu dois rendre visite à ces derniers.
أن تقول لهم ماذا تريد يا أبي ماذا تريد يا أمي.
Chaque fois qu'on rend visite à un parent, on lui demande au sujet de ce problème. Qu'as-tu besoin, mon père? Qu'as-tu besoin, maman?
هذه القضية الثانية مهمة أن تخدمهم وتحسن إليهم.
Ce deuxième point est très fondamental. Il faut être très bon envers ses parents et être aussi à leur service.
الأمر الثالث أن تدعو لهم بالهداية.
Troisième chose, il faut invoquer en leur faveur qu'Allah leur guide dans le droit chemin.
تدعو لهم دائما في سجودك في أوقات إجابة الدعاء قبل إفطار رمضان.
Donc tu dois multiplier les invocations pour les guider, surtout au moment où les invocations sont exaucées par Allah, par exemple au moment de la lecture du jeûne.
وأن تطلب من أهل هذه نفس النقطة وأن تطلب من أهل العلم والفضل أن يدعو لوالديك بالإسلام أو بالهداية.
Et vous devez demander aux gens du savoir et aux gens de bien d'invoquer pour vos parents.
فأن تدعو أنت وتطلب من الآخرين أن يدعون لهم.
Donc tu dois invoquer personnellement pour toi et demander aux autres de t'aider dans cette entreprise.
والدليل أن أبا هريرة قال يا رسول الله ادعو لأمي بالهداية.
La référence de la parole du Cheikh faisait ici où le compagnon général Abu Huraira a demandé au messager d'Allah d'invoquer pour qu'Allah guide sa mère, c'est-à-dire la mère d'Abu Huraira dans l'islam.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبا هريرة.
Et Allah a dit oh Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم autant pour moi dit oh Allah, guide la mère d'Abu Huraira.
فأسلمت.
Et elle a embrassé l'islam.
الأمر الرابع والأخير والمهم أن تدعوهم للإسلام بالكلمة يا أبتي الإسلام دين عظيم يا أبتي الله يحب أن تسلم يا أبتي من أسلم فله الجنة من مات على غير الإسلام فهو معرض للعقاب يدعوه للإسلام يدعوه للإسلام ولكن بالحكمة والقول اللين.
Donc maintenant, enfin, ça c'est un point très important. Il faut inviter par la parole vos parents à l'islam. Il faut appeler vos parents à l'islam. Maintenant, avec vos discours aussi, vous leur faites comprendre mes parents que vous embrassez l'islam, vous serez agréés d'Allah, sur la voie du paradis. Allah sait que vous soyez des croyants. Et maintenant,
بالحكمة لا يقول لك النار إذا مت فأنت خالدا فيها أن هذا يجده يبعد عن الإسلام.
Maintenant, il faut faire attention, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Pourquoi venir dire à un parent, car ta voix, c'est la voix du feu de l'enfer, avec une approche froide comme ça, ça pourra plutôt causer la répulsion.
قال الله لموسى وهارون عن فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, en confiant la mission difficile à Moussa et son frère Haroun vers Pharaon, l'homme le plus vacheux, le plus cruel de son époque, le plus méchant, si on veut se connaître, il a dit à ces deux prophètes, ces deux messagers, allez vers Pharaon, adressez-lui des paroles convenables, des paroles douces, des paroles douces, peut-être.
ومن اهتم بالأمر الرابح وترك الأمور الثلاثة الأولى لا يوفق.
Et celui qui se contente seulement du quatrième point, d'appeler ses parents à l'islam, et en délaissant les trois autres, soit la réforme de sa propre personne, la bonté envers eux et l'invocation pour eux, il n'aura pas, il ne peut pas réussir dans cette entreprise.
أعود إلى مداخلة أخينا ونختم بها. إيش قال هو؟
وقال
دليل لماذا؟
منع
الأحمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، ارجع إلى زاد المعاد، كتاب زاد المعاد ابن القيم المجلد الأول. تعرف كتاب زاد المعاد؟
Il vous demande de rentrer dans le livre de Ma'ad ibn Qayyim juste avant la bibliothèque, au tome 1. Le hadith de l'Hadith d'Abi Daoud.
Zakar ibn al-Qayyim, hadith, naha Rasulullah anil maytarat al-hamra. Naha Rasulullah anil maytarat al-hamra.
Donc ça, c'est le lac du hadith. Que cela comme interdit qu'on porte des vêtements rouges.
Et les ulama yakouloun al-nahi lil-karahat al-shadida.
Les savants qui interprètent le texte disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éprouvé une répulsion grandiose pour les vêtements
rouges.
Vous allez retrouver le hadith dans la parole des ulama.
ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب يبين للناس أن هذا خلاف السنة.
Donc si vous voyez des gens qui portent des vêtements strictement rouges, pour qu'ils puissent gagner des années.
الناس بحاجة إلى العلم.
En bref, les gens ont besoin de savoir. Pour recommander aux gens de convenance, il est interdit de blâmer.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخرنا اليوم كم الساعة؟
أنا لا. هذه فوزيانة كثير هذا طولنا
يعني. يا هلا.